Il écoute.
On ouvre un manuel d'histoire et qu'on s'intéresse à la question du travail, on veut regarder l'évolution du travail à travers le temps, on distingue souvent deux périodes. Il y a d'une part l'économie et la société pré-industrielle et l'économie industrialisée et la société industrialisée. Tout ça est évidemment fortement nuancé, c'est lié à une sorte de sphère occidentale, eurocentriste, mais bon, on va assumer ça. Et quand on regarde les choses, donc c'est évidemment la révolution industrielle qui fait la rupture entre la période 1 et la période 2. On pourrait d'ailleurs dire qu'il y a aujourd'hui une société post-industrielle, on pourrait y revenir à discuter, mais gardons ces deux périodes. Et dans la première période, qui est l'économie ou la société pré-industrielle, il y a un auteur qui est très intéressant, il s'appelle Karl Polanyi, qui est un historien, sociologue, philosophe, qualifié comme on veut, et qui écrit un livre qui s'appelle « La grande transformation ». Et dans ce livre, qui date quand même de plus de 60 ans, il l'a écrit peu après la Seconde Guerre mondiale, il estime qu'il y a eu un grand bouleversement, et lui, il date plutôt du 19e siècle, qui est un moment où la notion de marché, le marché, qui auparavant était finalement encastrée dans la société, qui était une partie finalement du monde social des gens de l'époque, qu'on soit à Athènes ou qu'on soit au Moyen-Âge, eh bien après, à partir du 19e siècle, il y a un renversement. C'est le marché qui devient prédominant et la société elle-même est encastrée dans le marché. Alors, il essaie de l'expliquer, de nuance, et donc ça permet de voir que la notion de travail elle-même est fortement influencée par cette évolution entre, disons, l'avant-révolution industrielle et l'après-révolution industrielle. Alors, cette époque d'économie... rythmé par l'agriculture, essentiellement agricole, c'est en fait une économie, une société très balisée, très organisée, très régulée, où on pourrait dire, mais là aussi il faudrait nuancer, qu'on est dans une économie de la subsistance. Pas mal d'anthropologues ont nuancé ça en disant que c'est pas forcément comme ça, mais bon, voilà, on va garder ça, mais qui est rythmée par une relation très stricte au niveau hiérarchique, entre quelques dominants et beaucoup de dominés. Et dans ce monde des dominés, dans cet univers de travailleurs dominés, il y a une pluralité des conditions. Il y a d'abord ceux, quelques-uns, qui ont un travail libre, qui sont dominés, mais dans un rapport de travail libre, quasiment contractuel, où la prestation du travail et des services se fait de manière totale entre le travailleur et, appelons-le, le seigneur. Et il est clair que cette relation-là est très importante au Moyen-Âge, dans l'agriculture, dans le monde rural qui est le monde grand, donc prédominant à l'époque. Et puis, il y a aussi quand même beaucoup de travailleurs non libres, là aussi, pluralité des conditions, entre les esclaves, qu'on connaît depuis très longtemps, qui existent quasiment depuis que l'histoire existe avec des sources écrites, mais dont les conceptions s'affinent aussi. Alors, prenons par exemple le système de plantation dans les colonies, dans les Antilles, là, au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a des esclaves qu'on vient chercher d'ailleurs sur les côtes africaines, avec ce fameux commerce triangulaire. Les armateurs viennent se fourguer d'esclaves, de main-d'œuvre qu'on va revendre et déverser dans les Caraïbes, et finalement pour pouvoir après les ramener contre des produits manufacturés et les produits du travail d'esclaves. Et en fait, au XVIIIe siècle, les esclaves travaillent en effet dans les plantations sucrières, les maisons sucrières, comme on dit d'ailleurs en Guadeloupe ou en Martinique, et ils travaillent en coexistant avec des travailleurs semi-libres qui sont eux contractuels. Donc vous voyez, le tableau est assez bigarré entre d'une part... ont des travailleurs qui sont, eux, rythmés par un salaire, ce terme est important, et d'autres qui sont vraiment tout simplement dans des conditions d'esclaves, qui sont considérés comme des biens. Il y a un règlement aussi, qui est le code noir, qui est bien spécifique, fin 17e, en France notamment, dans ces colonies, et puis l'inverse. Mais donc voilà, monde relativement stabilisé, ordonné, hiérarchique. Et souvent on dit que la révolution industrielle va induire, va engendrer le chaos dans les relations de travail et va complètement bouleverser. bouleverser les systèmes qui étaient en place. Alors une façon peut-être intéressante de bien comprendre l'évolution du travail à travers le temps, c'est peut-être regarder la notion de temps elle-même, dans le travail, à travers l'histoire. La notion de temps, pas le temps de travail en tant que tel, mais la temporalité du travail. Et là, j'aimerais bien m'attarder sur quelques éléments qui se passent d'ailleurs aussi fin 18e, comme quoi il y a des bouleversements. Peut-être, imaginez, quand on parle de révolution industrielle, on parle souvent que c'est l'Angleterre qui a initié les choses, mais pas mal d'historiens qui commencent à dire que c'est pas aussi évident que ça. Que du côté de la Chine, en 1850, on est dans une même situation de croissance, ou plutôt d'économie, avec des surplus qui sont dégagés de mobilité de travailleurs. Bon, disons que c'est l'Angleterre, ok, il y a quelque chose qui se passe, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe finalement que vers 1760, on commence à mettre en place des centres de production, de manufacture, on appelle ça des manufactures, qui vont de plus en plus s'imposer comme étant la norme. La manufacture existe depuis le début du XVIIIe siècle, mais vraiment comme un petit appendice par rapport aux conditions de travail. On travaille dans les champs en grande partie. Il y a quelques ateliers, les campagnes, les villes cohabitent, coexistent, hein. Surtout les campagnes, on travaille sur le poumon économique, mais dans les villes, il y a des bouleversements, il y a le monde des corporations, je vais y revenir. Mais il y a quand même une interaction entre ces deux éléments-là. Et les manufactures deviennent, à partir de ce dernier tiers du XVIIIe siècle, un endroit où il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, c'est ce que d'aucuns vont qualifier le système d'usine. Le système d'usine, c'est le fait de concentrer en un seul lieu une série de tâches qui, auparavant, préalable, étaient complètement dispersées. On peut penser, par exemple, à ce qui se passe au niveau de l'industrie du textile, parce que c'est surtout là que ça se crée, hein, avec dans une filature qui s'appelle la filature de Oakright, qui est quelqu'un qui va mettre en place des innovations en matière de cardage, mais aussi de filature et pour les conditions de tisser. Eh bien, on va concentrer dans un même lieu, dans un même espace, la manufacture, différentes conditions de travail, différentes pratiques de travail. Et Oakright, donc vers 1770, se dit que finalement, ce qui permet de rendre les gens, les travailleurs, la main-d'œuvre plus disponible, de la fixer davantage sur cet espace de travail, c'est que le temps de travail ne soit plus forcément rythmé par la tâche à accomplir, mais par quelque chose d'extérieur. Et c'est quoi cet extérieur ? Pas forcément un dieu ou une référence religieuse, c'est l'horloge. Oakright, si ce n'est pas lui, ce sont ses collègues qui deviennent les patrons de manufactures, vont introduire l'horloge dans l'espace de travail. Et ça va être une vraie révolution. Ça se passe au moment où la révolution industrielle se met en place. Quand on pense à la révolution industrielle, on pense à la mécanisation, on pense aux nouvelles sources d'énergie qui vont induire de nouvelles forces motrices, la machine à vapeur, hein. What? Mais le temps qui va faire son apparition via l'horloge dans la fabrique, là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce qu'auparavant, pendant des siècles, le temps, il est rythmé par quoi? Je l'avais dit un peu avant, c'était le temps, les cycles, les saisons, des récoltes, les cycles météorologiques, qui est variable et qui n'était pas prédéterminé par quelque chose d'extérieur. Ça, c'était finalement dans les campagnes, dans les villes. Je schématise un peu, mais dans les villes, il y a ce monde de corporations. Les corporations, c'est le régime des métiers. Les corporations des bouchers, on a appris ça à l'école. Eh bien, dans les corporations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une structuration très claire, hein, de l'apprenti qui devient compagnon jusqu'au maître. Eh bien, on suit son travail, du début à la fin. Et donc, qu'on soit à la campagne ou qu'on soit en ville, il y a là un suivi de la tâche qui est vraiment déterminant dans la pratique de travail. Et l'irruption de l'horloge dans la manufacture de Oakright va casser ça. Ce n'est pas une révolution comme une prise de la Bastille 14 juillet 89, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui va se passer et qui va devenir, pas une norme, mais qui va se généraliser au fur et à mesure. Là, on est dans les années 1770. Alors, dans les années 1770 aussi, comme quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a un économiste qui est plutôt philosophe, hein, il qualifie lui-même de philosophe, mais aujourd'hui, on le retient comme économiste, et c'est beaucoup d'économistes qui le citent, qui s'appelle Adam Smith. Adam Smith, en 1776, qui va décrire dans son livre de La richesse des nations un épisode qui est vraiment très intéressant sur la division du travail. Il va lui-même devenir, se faire sociologue, il va aller dans une fabrique et il va se rendre compte que dans une manufacture, qui n'est pas encore la norme du tout, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau à l'époque, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, qui est que les différents travailleurs vont se spécialiser, ou en tout cas accomplir des tâches bien spécifiques dans la manufacture. Et il va se rendre compte que c'est tout à fait intéressant pour la productivité de la manufacture. Donc imaginez, 1770, peu avant la Révolution française donc, on introduit l'horloge dans la manufacture. Adam Smith vient avec nous et nous explique comment une manufacture se compose, il y a une division du travail, et là il y a quelque chose qui est en train de se faire. 20 ans plus tard, Révolution française, voilà, en effet, abolition des privilèges, donc tout ça, c'est à l'école, c'est la fin de l'ancien régime, mais il y a quelques décrets, quelques lois qui sont aussi importantes pour le travail. Notamment la loi Le Chapelier, qui en 1791, au moment où la République est en train de s'affirmer, où le programme de convention, de constituante se met en place, 1791, la loi Le Chapelier, qui va être complétée un an plus tard par le décret d'Allard, on abolit les corporations. Alors, l'abolition des corporations, ça se fait de manière assez brutale, et on introduit, je schématise aussi, la fin de ce régime des corporations, et il y avait beaucoup de corporations, il n'y avait pas que les chirurgiens barbiers, les universités, c'était aussi une corporation, parce qu'elles avaient le monopole de la transmission du savoir. On va les abolir en France. On va abolir les universités en France, on va les réintroduire 80 ans plus tard, voilà, on les abolit à ce moment-là. Et on met quoi à la place? On met un système de travail qui va être négocié par l'offre et la demande. C'est un règne un peu libéral, finalement. Il n'y a plus, finalement, de possibilité pour des travailleurs de se liguer, de se mettre dans une corporation. Et la corporation, c'est vrai qu'elle était finalement relativement imperméable à l'extérieur. C'était assez rigide, hein, comme système, de communauté, même si on peut aussi un petit peu distinguer les choses, mais à l'intérieur, en tout cas, elle permettait à la fois un lieu de pratique, de formation et d'entraide, de grande solidarité au sein de ceux qui étaient dans la corporation. Et donc, le système qui est mis en place par la loi Le Chapelier va casser ça. Et quand on casse ça, on met quoi à la place? Donc un système organisé par l'offre et la demande, où donc on va offrir, si je puis dire, ses bras, c'est le règne du salaire, de la salarisation. Le salaire existait déjà avant. Il y avait depuis, au moins, attesté depuis le XVIe siècle, des pratiques de salaire dans les champs, dans les milieux ruraux. On allait par saison, quand la saison était finie, offrir ses bras pour avoir un peu un complément de revenus pour travailler en ville et voir finalement si on pouvait gagner un petit peu d'argent pour compléter sa situation dans les milieux ruraux. Donc le salaire, c'est pas nouveau. Mais ce qui se passe avec la loi Le Chapelier, c'est que la salarisation va devenir effectivement, sur le plan juridique et légal, et pratique économique, une norme tout à fait importante et imposante. Ça, c'est vraiment très important parce que ça va générer des nouvelles relations de travail, et notamment ce que Marx va qualifier, lui qui observe les choses au milieu du XIXe siècle, une prolétarisation croissante des conditions de travail. Pour Marx, très clairement, la salarisation, c'est non seulement l'exploitation des travailleurs, mais l'exploitation des conditions de travail par celui qui va essayer de vendre sa force de bras. Et donc là, on est dans un rapport qui est de dominé et de dominant, qui n'est plus le même que celui de l'ancien régime, puisque c'est régi par l'argent et par des nouvelles conceptions de travail, une nouvelle conception du temps de travail. Je parlais du temps, et je reviens sur un autre élément qui est fondamental et qui intervient là, sur le coup, à partir de la fin du XIXe siècle, c'est qu'on va aller vers des unités de temps de plus en plus standardisées. Alors là, on pense tous évidemment à Taylor. Taylor qui, lui, écrit au début du XXe siècle, chose assez intéressante, qui dit, bah, finalement, quand on observe les choses sur le temps long, Taylor, il est ingénieur, mais ingénieur non diplômé. Hein, aux États-Unis, les ingénieurs, c'est plutôt des gens qui, par la pratique, s'imposent comme ingénieurs parce qu'ils sont devenus contremaîtres, ils deviennent, après avoir montrer leurs preuves dans les entreprises et s'imposent comme ingénieurs. Et lui, il devient ingénieur, mais en plus ingénieur conseil, ce qu'on appelle les consultants. Les consultants, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui qui fait florès. Et le premier consultant qui pourrait se nommer en tant que tel, c'est Taylor. Et il dit Taylor, mais finalement, quand on observe les choses, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on peut aller vers plus de productivité, plus d'efficacité, parce qu'il y a trop de gaspillage. Et il y a une raison très claire pour ça, c'est que même si on introduit l'horloge depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a un gros problème, c'est que les travailleurs, ils connaissent mieux leur travail que les patrons. Et ils savent l'organiser eux-mêmes. Et donc, ils perdent leur poste. Et ça, c'est plus possible. Et il faut trouver un autre système qui est d'empêcher les ouvriers, les travailleurs, puisqu'on est dans une partie de la révolution industrielle maintenant où les manufactures commencent à s'imposer, eh bien, il faut empêcher les travailleurs, les ouvriers, de s'approprier le temps de travail. Il faut le leur imposer. Non plus comme une horloge uniquement, mais en chronométrant les tâches de travail. Et ça, en effet, c'est quelque chose de fondamental. Il va donc élaborer ce qu'il va appeler l'organisation scientifique du travail. C'est aussi scientifique que des recettes de cuisine, hein, mais bon, ça donne quelque chose, quoi, quand c'est organisation scientifique du travail. Et il va chronométrer, en effet, toutes les tâches de travail dans des unités bien précises, dans des fabriques bien précises. Et là, il va se rendre compte qu'il y a, en effet, moyen d'arriver à des moyennes, à des médianes, qui vont devenir, à partir de l'observation, la norme. La norme pour tous les travailleurs, et qui va s'imposer de proche en proche. Alors, ce qui marche, surtout dans les ateliers, les fabriques, ne marche pas forcément ailleurs. Mais ça marche notamment dans une usine qui fonctionne bien au début de ce XXe siècle de l'effervescence, de l'hyperdynamisme, de l'innovation, qui est l'industrie automobile. Et il y a un certain Henry Ford qui a, lui, démarré sa propre entreprise, alors qu'il était aussi attaché dans une entreprise d'électricité, la General Electric, et qui fonde sa propre entreprise de construction automobile. Et il se dit en effet que les petites recettes de cuisine de Taylor fonctionnent très très bien, on va les appliquer. Et il se dit, mais il y a peut-être encore moyen d'aller un peu plus loin que Taylor. Et tout ça se fait en même temps, parce que Taylor écrit en 1905, et Ford introduit en 1913 une nouvelle petite un nouveau bouleversement dans la pratique de travail qui est la ligne d'assemblage. La ligne d'assemblage, c'est assez génial dans le cynisme, puisque finalement, ça permet non seulement de confisquer la notion de temps de l'ouvrier, l'ouvrier n'a plus la maîtrise lui-même de la conception du travail, il n'y a que l'exécution du travail, ça c'était Taylor qui l'a dit, mais Ford fait un pas plus loin en disant on va maintenant faire en sorte que l'ouvrier ne bouge plus de sa place. Et ce n'est plus lui qui va aller vers les pièces, ce n'est plus lui qui va aller vers ses différents outils de travail, ce sont les outils qui viennent à lui. Et donc en effet, on accélère là un élément que les sociologues qualifient de parcellisation des tâches, et on accélère aussi une notion qui est assez importante, qui est l'interchangeabilité des tâches. L'ouvrier devient un pion, puisque lui n'a plus du tout vraiment la conception de la tâche de son début jusqu'à sa fin, il n'en voit qu'une vision extrêmement fragmentée. Eh bien, très clairement, on assiste là aussi à ce qu'on pourrait qualifier une déresponsabilisation du travailleur par rapport au travail et dans son environnement social en général. D'ailleurs, de manière un peu cynique là aussi, certains sociologues ont parlé de ce qui s'est passé du génocide juif et notamment de l'industrie de l'Holocauste comme vraiment un phénomène qui n'est typique que dans une société extrêmement industrialisée, parcellisée, puisque si vous vous rendez bien compte, la plupart des bourreaux ont pris comme justificatif pour justifier leur tâche, si je puis dire, de dire que simplement ils suivaient les ordres. Et ils n'avaient pas du tout une vue d'ensemble, ils n'avaient qu'une vue extrêmement parcellisée, parcellaire de leur travail. Et donc, ils ne sont pas responsables de ce qui se faisait au bout. Donc, d'une part, hiérarchie, d'autre part, vision parcellaire. Mais ce qui est intéressant aussi dans le Fordisme, c'est que le Fordisme, aujourd'hui, se comprend de deux façons. D'une part, avec cette idée, finalement, de ligne d'assemblage, de parachèvement du taylorisme et de rationalisation, mais également comme un modèle socio-économique ou macroéconomique. Quand on parle de Fordisme, qui est devenu la norme après la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que le Fordisme, c'est aussi une recette macroéconomique générale pour dire qu'il faut mettre en place une société d'abondance rythmée par un travail pour tous, de plein emploi, pour davantage de travail, une plus grande productivité, et en reconnaissance aussi un plus grand salaire. Et en effet, partout en Europe et aux États-Unis, dans une moindre mesure dans d'autres pays du monde, on introduit ce régime fordiste que certains vont qualifier de régime d'État-providence, en effet, où l'État devient un peu le gendarme qui régule un travail de plein emploi avec plus de salaire, mais alors plus de productivité. Et d'ailleurs, on a introduit aussi les syndicats dans cette dynamique de concertation généralisée, où finalement tout le monde trouve son compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une époque où ce système fordiste périclite, en tout cas la part de l'État, on n'est plus du tout dans le système de la providence, puisque il baisse tendanciel de l'intervention de l'État. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est quand même très clairement, si je me réfère aux pratiques et à la temporalité du travail, on est toujours les héritiers de ces dynamiques tayloriennes et fordistes, puisqu'on est un corps, quand on travaille dans une entreprise, fortement marqué par une conception des tâches tout à fait parcellisée, où il y a une séparation stricte entre la conception, qui est le fait de quelques-uns, et l'exécution, qui est le fait d'une grande partie des autres travailleurs, qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas une connaissance de l'entièreté de leur travail. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est intéressant de regarder l'histoire du travail, non pas uniquement comme l'aboutissement d'étapes spécifiques avec des changements en matière de rythme, de loi, de législation et d'attitude de travail, mais aussi comme la longue et lente histoire, finalement, de la dépossession qu'on peut avoir de son propre travail, de soi-même par rapport à la société, et que finalement, il serait intéressant, et on l'a fait depuis pas mal de temps, je crois, de suivre des manières de se réapproprier le travail. Comment se réapproprier le travail en ayant connaissance, justement, de ces longues et lentes histoires de la dépossession, de la temporalité du travail.